France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Emma Renzel. Je suis allemande et française. Je suis écrivain. J'ai été éditrice, je le suis toujours un tout petit peu. J'ai été femme d'Europe en 1995 et maintenant j'ai 80 ans, je suis à la retraite.
Premier épisode, sous le signe de la culpabilité. Bonjour Marencel.
Bonjour Caroline.
Je suis contente de faire ces avoix nues avec vous parce que, comme nous allons le voir, vous avez marqué le monde littéraire et intellectuel de ces 50 dernières années. Vous avez participé à la création du journal Libération. Vous étiez dès ses débuts à la fac de Vincennes avec Hélène Sixous. Vous avez écrit plusieurs romans. Vous avez accompagné l'évolution du monde de l'édition pendant plus de 40 ans. Et je suis contente aussi de les faire en ce début d'année 2025, au moment où vous fêtez vos 80 ans, et où vous faites paraître un livre sur votre itinéraire sentimental, culturel, politique, parce que vous incarnez une génération, celle de l'après-guerre, les fameux baby-boomers. Et à travers cette génération, peut-être tout un monde qui est en train de disparaître et dont témoigne avec une conscience aiguë de l'époque votre ouvrage. Ce qui fait que j'ai envie de vous poser une première question sur votre rapport au temps. Quel est votre rapport au temps qui passe ?
Ouais, il passe bien. Vous me présentez, je me présente et me vient à l'esprit la première phrase de mon premier livre qui était « Là où je suis née, personne n'est né ». C'est une phrase qui m'a été imposée par mon inconscient probablement et c'est tellement en contrepoint avec ce que vous dites. Maintenant, il paraît que je suis une personne, mais je pensais qu'être née en Allemagne en 45, on n'avait pas droit de naître, en fait. On n'avait pas droit de naître après ce qui s'est passé à cette époque-là, après l'Holocauste. En fait, j'aurais préféré de rester personne. Mais ça s'est présenté autrement, parce que maintenant, vous avez plusieurs définitions à mettre sur mon nom. Et voilà, je suis contente aussi.
Oui, donc plusieurs temps qui sont passés, plusieurs époques qui se sont suivies. Et c'est ce qui vous fait écrire aujourd'hui dans le premier chapitre, c'est même le titre du premier chapitre de Tout est là, ce livre qui retrace votre itinéraire. Je sais d'où je viens. Alors, entre là où je suis née, personne n'est né, et je sais d'où je viens, il y a eu du chemin de parcouru.
Oui. La deuxième phrase de mon premier livre, c'est peut-être suis-je plusieurs. Et en fait, c'est ça ce qui est le livre que j'ai publié là récemment, qui montre que j'ai été plusieurs et que je resterai probablement plusieurs jusqu'à la fin.
Donc effectivement, vous êtes plusieurs, on le garde en tête, voilà. Marencel. Ce que vous écrivez aussi au début de ce livre, Tout est là, c'est plus on avance en âge, plus on retourne vers le début. Alors je vais vous inviter à retourner vers ce début, vers 1945, ce 2 février, où vous naissez dans la petite ville de Flensburg. Flensburg, c'était à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne. Votre mère était polonaise et votre père était danois. Et puis vous avez grandi dans la petite ville de Zweibrücken. Alors pardon pour mon accent.
Zweibrücken. Deux ponts, oui.
Vous avez commencé de répondre, Marencel, mais j'aimerais bien que vous continuiez sur la signification assez profonde d'être né en Allemagne en 1945. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, les plusieurs en question ?
Oui, certainement. J'étais toute petite, hein, donc c'est après des choses que j'ai mis, par exemple, deux. Je n'étais pas deux au moment où je suis née, c'est évident. Mais après, avec tous les changements de lieu et en avançant en âge et en activité, le 2 est devenu quasiment le fondement de mon existence, parce que j'ai deux passeports, j'ai deux langues, j'ai deux amours. j'ai plusieurs amours, mais dans la différence sexuelle des deux côtés. Voilà, donc le 2, c'est ma base, et je me trouve très bien. À cette base, c'est ajouté le 3 parfois, c'est quand je me suis mariée, quand j'ai eu un enfant. Donc le 3 aussi, ça consolide le 2, en fait. Et le 8, mais ça c'est mon apprentissage bouddhiste, le 8 signifie l'infini. Voilà.
Alors, naître en Allemagne en 1945, qu'est-ce que ça a fait pour vous? Est-ce que vous avez grandi sous le signe de la culpabilité, de la honte, de l'étouffement, comme vous l'avez dit dans un livre précédent?
Au début, j'ai aperçu des petits signes qu'on peut apercevoir quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Donc, ces premiers signes dans la maison de ma grand-mère à Flensburg, c'était tout d'un coup, il y avait d'autres gens qui venaient habiter dans l'appartement où mes parents, qui avaient fui la Pologne, enfin la Pologne actuelle, c'était autrefois c'était la Silésie, dans une ville qui s'appelle Breslau, Wrocław maintenant, Wrocław, ce qui veut dire lieu de rencontre, alors que c'était plutôt le lieu où tout le monde était chassé, les Juifs bien sûr, les Allemands. Donc mes parents, ils avaient, je crois que les plus heureuses vies, les années de leur vie, quand ils étaient jeunes mariés, quand ils ont fait leur premier enfant, etc., c'était dans cette Breslau qui était avec Berlin et Francfort, la ville la plus où il y avait le plus de Juifs, vraiment. C'était une ville incroyablement prospère. C'était un peu comme Sarajevo plus tard, non? Voilà, une ville cosmopolite. Et ils étaient obligés de fuir cette ville qui était leur bonheur, c'est leur premier appartement, l'installation, premier enfant, pour se réfugier chez ma grand-mère à la frontière danoise. Elle s'appelait Erna, ma grand-mère. Et dans cette maison où ils étaient, où on était déjà, enfin moi j'étais voilà en train de juste né, il y avait des gens étrangers, des étrangers qui sont arrivés et il fallait faire de la place. Ça je me souviens. Donc c'était des réfugiés. Donc j'étais habituée à la présence de réfugiés dans l'appartement de ma grand-mère. Voilà.
Il y avait aussi le fait que votre mère. Vous parlez de l'époque heureuse à Breslau, mais en 44, votre mère a perdu son père,
oui,
fauché
voilà.
par une bombe. Sa sœur avait, elle, épousé un officier SS violent. Elle était morte en couche.
Alors c'est ça ce que j'ai appris. Donc mon cousin, qui était donc le fils de la sœur de ma mère, un jour, il s'est précipité, enfin je sais pas, il avait 4 ans, 5 ans, il s'est précipité sur moi avec des ciseaux. Et j'ai eu très, 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 très peur. Et je me rappelle que ma grand-mère est venue me consoler en disant qu'il avait perdu sa mère. Voilà. Et donc, il y avait ce deuil dans la famille, un double deuil, en fait. Mais le deuil de mon père, j'ai compris que c'était un bon vivant. Il avait une petite usine, une entreprise de distribution de l'alcool, du rhum, etc. Et la sœur de ma mère, en revanche, c'était comme des cruaux chuchotements. Parfois, je voyais ma mère pleurer. Parfois, il y avait des chuchotements entre ma grand-mère et ma mère. Et c'était... Alors après, j'ai compris pourquoi. Parce que la sœur de ma mère était mariée à un officier nazi, SS, très haut placé, et qui était certainement violent avec elle. Et quand elle était enceinte, je me rappelle, ça m'a tellement frappée, petite fille que j'étais, que on me disait, mais pourquoi elle est morte? Mais parce que le chirurgien a oublié des ciseaux dans son ventre. Et je me suis dit, ça quand même. Et après, je me suis dit, est-ce que c'était par un opposant au nazisme, un chirurgien qui a voulu faire, enfin, tuer la femme d'un grand nazi, ou, enfin, j'ai jamais compris, jamais su. Mais c'était, enfin, j'étais stigmatisée par cela, voilà.
Dans les souvenirs de votre enfance un peu traumatique, dans les images comme ça, un peu traumatiques, il y a cette photo sur laquelle vous êtes tombée dans la cave de la maison.
Oui.
Vous étiez petite,
alors,
hein.
J'ai des souvenirs formidables. Ma grand-mère, ah oui, c'était ça aussi. Ma grand-mère, elle fabriquait, enfin, autrefois, il y avait toujours des machines à coudre dans les maisons, hein. Bon. Et puis, il y avait dans les caves, des conserves. Donc, dans l'Allemagne du Nord, c'était des harengs, c'était des cornichons, c'était des pommes de terre qu'on mettait sur des étagères. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, je suis descendu dans cette cave, à un moment donné, et j'ai découvert un livre de photos, enfin, un album photo, plutôt, dans cette cave, et j'ai regardé une photo Et c'était une femme morte, avec la bouche complètement tordue. Et autour de cette femme, un petit attroupement d'hommes, dont un qui était probablement le chef, et qui riait, enfin une sorte de jubilation, et les autres aussi, une sorte de jubilation. Alors, jubilation pourquoi ? Ils avaient ouvert le ventre de cette femme et extirpé un petit fœtus. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc, ils ont torturé probablement une femme et enlevé la vie, non ? Pas seulement tuer une femme, mais une femme enceinte. Et je me suis dit, non, mais je me suis rien dit à l'époque, j'étais tout simplement terrifiée, mais je me suis dit quand même, enfin, qu'est-ce qui fait rire les hommes? Est-ce que c'est de tuer, pas seulement, sans pitié, voilà, une cruauté? Et aussi, peut-être, ça c'est après que je me suis dit, que cette ancienne jalousie des hommes, parfois, non, de ne pas avoir le pouvoir, n'est le plus grand pouvoir de pouvoir donner la vie, ils l'ont pas. Hein, ils ne peuvent pas accoucher d'un enfant. Et ça peut les rendre dans une sorte de rage, de vengeance, quand l'environnement le permet.
C'est une photo de guerre ?
Oui, de guerre, oui.
Est-ce que de cette guerre, on parlait à la maison ? Ou est-ce qu'il fallait oublier, il fallait ne pas savoir ?
Non, on ne parlait pas, non. Non, on ne parlait pas. Comme on ne parlait pas du tout de l'extermination des Juifs et... C'était des tabous. Mais ça se tramait quand même. C'est pour ça que je l'ai écrit chuchotement. Il y avait comme ça. Je sentais qu'il y avait des secrets, non ? Il y avait des secrets. Et certainement, le mari de ma tante. D'ailleurs, moi, ma mère m'a donné comme deuxième nom. Mon premier nom, c'est Maren. Mon deuxième nom, c'est Helga. Et c'était le nom de ma tante qui est morte en couche, là. Voilà.
Est-ce que c'est pour toutes ces raisons, Maren Selle, que vous avez écrit, que vous avez la sensation collective d'ailleurs, pas seulement individuelle, mais collective, d'avoir un cadavre dans le corps ? Parce que vous avez fait de cette origine allemande, juste après la guerre, un livre qui était votre premier livre, en 1978, qui s'appelle « Mourir d'absence », dans lequel vous revenez sur ces origines et sur cette difficulté quand même de grandir dans cette société allemande de l'après-guerre. Sentiment d'avoir un cadavre dans le corps.
Oui, enfin, c'est une formule qui m'est tombée dessus de par miracle, quoi. Mais quand elle m'est arrivée, je trouvais que c'était très juste et je pensais justement à mes camarades et mes amis, mes concitoyens allemands. Et je pense que c'était, enfin, je l'ai testé un peu ce concept, quoi, en fait, cette formule. Et tout le monde était d'accord avec ça, que ce qui les agissait, et les cinéastes, et les écrivains, et les peintres, et enfin absolument tout le monde, c'était ce cadavre dans le corps qui pouvait pas s'exprimer et qui a mené à des agissements extrêmes pour expulser ce cadavre. Et ça pouvait être par la plus grande violence et ça pouvait être par un crime. Hein.
Mais donc, une enfance marquée par cette sortie de la guerre et cette guerre toute proche, une enfance, malgré tout, marquée par un très grand amour de la part, au moins de votre père, de vos parents.
Mon papa.
Votre papa, Hans, de son prénom. Très marquée par cet amour, ce père avec lequel vous parliez beaucoup musique. La musique
pas seulement qu'on parlait, on vivait musique ensemble. Musique. Ouais.
Vous échangiez musique, voilà. Dialoguiez musique. Il était ingénieur sur des chantiers, votre père. Mais il a énormément compté pour vous. Voilà. On dirait presque que c'est le premier amour de votre vie quand vous.
Oh, moi,
quand
je dirais, vous... oui, bien sûr. Oui. Je pense que je ne suis pas la seule, non ? Beaucoup de filles ont comme premier amour leur père, non ? Oui. Non, mais avec ce qu'on peut dire peut-être, la. Enfin, après, quand je commençais à lire, etc., il y a un poème magnifique de Hugo von Hofmannsthal. C'est Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen. Et les enfants grandissent avec des yeux profonds. Et je pense que à cause de ce passé, et ce secret et cette douleur de quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu, mais on sentait le poids vraiment dans la société allemande et dans la famille. Ce qui est peut-être positif dans tout cela, c'est que ça nous a donné des yeux profonds. Mon père, par exemple, voilà, il avait un penchant pour la langue française, non? Et justement, ça s'est installé assez tôt. C'était nous, les Allemands, on avait des yeux profonds, et les Français, ils avaient quelque chose de très, très, très estimable que mon père aimait beaucoup. C'était une sorte de frivolité, une sorte de légèreté. Il y a un mot de Karl Kraus qui dit que les Allemands, ils pensent que érotique, le mot érotique en allemand, érotisme en français, vient de erröten, c'est-à-dire avoir honte, rougir de honte, non? Donc les Allemands, ils rougissent de honte quand il est question d'érotisme. Et les Français, au contraire, non? Ils sont beaucoup plus frétillants, quoi, pour la question de la sexualité.
Vous voyez, ouais. On retrouve déjà cette dualité.
Oui, il y a déjà une dualité. Oui, oui. Alors évidemment, c'était mon premier amour, mais c'était mon premier amour, justement à cause de un amour très profond, à cause de cette sublimation de l'amour, en même temps que le ressenti érotique, évidemment, c'était lié à la musique et c'était une jouissance partagée. C'est-à-dire, on se mettait, c'était un peu contre ma mère, il faut dire, hein, parce que mon père était beaucoup plus imbibé et vibrant de musique que ma mère. Donc, quand j'étais un peu adolescente déjà, il me prenait par la main le dimanche matin pour aller boire un coup. Bon. Donc, on allait boire un coup et maman restait à la maison pour faire à manger, pour le déjeuner. Et quand on rentrait à la maison, c'était une sorte de rituel, avec les grands disques vinyles là, on se faisait un petit triple à nous deux. C'était une sorte d'extase, non? C'était une sorte d'extase de sentiments. Et à l'époque, donc je m'appelle, que mon père il aimait assez Wagner, non? Voilà. Alors Wagner était interdit en Allemagne, en fait, c'était politiquement pas correct, non, d'écouter Wagner.
Donc on avait associé au nazisme.
Associé au nazisme, évidemment. Donc on avait à nous deux une sorte de clandestinité, non, qu'on partageait, ce que j'ai bien aimé dans ma vie après aussi. On partageait cette clandestinité, d'abord de fermer la porte pour que ma mère ne nous dérange pas, et faire quelque chose d'interdit, non, parce que c'était vraiment interdit d'écouter Wagner. Alors dans mon vécu sentimental, c'était la musique. Incroyablement suggestif. Et moi, je me prenais pour Brunhilde, hein, je me prenais comme la passionnaria qui défend incestueuse, qui défend les infidélités du père, de Votan. On se projette, non, on ferme les yeux et tout d'un coup, on est à cheval, on traverse les forêts, il y a Votan, il y a Frika, la mère, qui dit non, 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 il faut, voilà. Et c'est intéressant parce que après, j'ai vraiment écarté Wagner de mon répertoire musical, en fait. Et je l'ai retrouvé à Bayreuth, 20 ans après, dirigé par Boulez. Et mise en scène par Patrick Géraud, et c'était là on voyait bien, enfin, comme il était possible d'interpréter ce truc un peu bombastique germano truc en quelque chose de politiquement différent, parce qu'à la fin, au crépuscule des dieux, mais c'est la fin du règne et l'arrivée du prolétariat, hein, que Brunhilde a défendu. L'art a la possibilité d'être attaché à des cultures différentes, quoi. Quand c'est vraiment du grand art. Voilà, donc avec mon père, c'était cette fusion.
Un lien fusionnel, privilégié. Pour terminer le tableau de cette petite famille, il est important peut-être, Marencel, de parler de votre sœur Ingrid. dite Kiki, qui avait 11 ans de plus que vous, et qui a connu un destin tragique quand même.
Ouais.
Je pense que là aussi, vous allez nous le dire, mais le poids de l'histoire...
À partout.
L'a vraiment poursuivi.
C'est ça ce qui est incroyable. C'est-à-dire, pour cette génération, c'est arrivé d'une façon différente. Mais pour nous, après, c'était la révolution. Mais pour ma sœur, la grande aventure est de se séparer du poids allemand, du passé allemand. Mais c'était l'époque où on pouvait traverser l'Atlantique pour la première fois. Donc elle avait épousé un officier américain, vraiment pour fuir. Ouais, c'est évident. Alors elle avait fait son baccalauréat en danois. Dans un lycée danois à Flensburg. Donc il y avait cette présence de deux langues aussi déjà dans ma première petite demeure à Flensburg, parce que ma famille, bon, ils parlaient danois, pas comme couramment, mais à table, on remerciait en danois et on priait en danois. Et c'était le protestantisme danois, enfin disons austère, qui était parallèle à aux traditions allemandes à la maison. On avait ces deux langues déjà à la maison.
Pas le polonais?
Non. Mais le yiddish un peu mélangé à l'allemand, quoi. C'était pas complètement dans un seul, c'était pas un mono-espace, hein. C'était traversé. Et ma sœur, donc elle a fui. Le poids de,
aux États-Unis.
De sa patrie allemande, en traversant l'océan, en allant aux États-Unis, où son mari, il venait du Arizona, donc il avait une grosse ferme avec des buffles, non?
Un cowboy,
exactement. Et elle restait à la maison et... Enfin, elle nous racontait qu'il y avait des scorpions dans son lit, enfin bon, elle était terrifiée, elle est restée 6 semaines avec lui. Et elle a eu le courage de fuir et de fuir à New York, où elle a rencontré l'amour de sa vie, Paul.
Et juif ashkénaze.
Juif ashkénaze, absolument. Et quand ils sont venus présenter l'un et l'autre aux parents, mes parents étaient très contents parce qu'elle avait l'air heureuse, et elle était heureuse. Mais les parents de Paul, qui étaient donc juifs ashkénazes vivant en Belgique, ils ont dit à leur fils que c'était absolument impensable qu'il épouse une schleu. Et donc il est parti en Israël. Et ma sœur est partie en Israël, dans un kibbutz, pour attendre le moment où elle allait peut-être le croiser et le retrouver. Et ce moment n'est jamais arrivé.
Et elle est restée seule pendant 40 ans.
Oui, elle est restée seule pendant 40 ans. Et à son enterrement, je pense à ce qu'on disait de Wagner, à son enterrement, elle a voulu que soit joué le Abendlied de Wagner. Enfin, les seuls, en fait, un peu les seuls divertissements qu'elle s'autorisait, c'était de courir de Berlin à Bayreuth, de Bayreuth à Düsseldorf, pour écouter Wagner. Et elle a écouté Wagner jusqu'à dans sa tombe.
Vous, Marensel, vous avez commencé par étudier les langues et la littérature allemande et romane à l'université de Fribourg. Vous parliez de ce rapport pluriel aux langues, le danois dans votre famille, la langue allemande dans laquelle vous avez grandi, puis ensuite le français. Aujourd'hui, quel est votre rapport à la langue allemande? Vous avez gardé l'accent. D'ailleurs, je me demande si on dit Marensel ou Marenzel, comme le dit votre ami Daniel Cohn-Bendit. Maren?
Sel.
Sel.
Non, Zel.
Il a raison, Daniel Cohn-Bendit. On dit Marenzel.
Il a dit ça, ouais. Voilà. C'est Maren. L'accent est sur la première syllabe, non? Maren. Zel. D'accord? Bon. Et, alors là, il faut que je dise que Lacan, il disait parfois, on choisit le pays où le nom se prononce à votre avantage, non? Voilà. Alors, c'était vraiment complètement mon cas, parce que de Maren, ma mère disait, toutes les vaches s'appellent Maren, non? Au Danemark. Donc, moi, je voulais pas être comme toutes les vaches, donc j'ai dû migrer, non? Dans le sud, déjà, et près de la frontière française, parce que, en France, bon, ça ressemble pas à un nom de vache, mais à une reine, non ? Si on veut bien, ma reine, c'est quand même préférable. Voilà. Et en effet, c'est zèle. Et ici, quand on dit ma reine, celle, ça s'écrit presque avec un C. Hein. Donc, je suis celle qui a... Tout ça, c'est très subtil, mais finalement...
Mais ça compte, manifestement, c'est important.
Apparemment, non ?
Apparemment.
Moi, je tiens assez... Enfin, je suis très sensible à ces signes-là.
Et donc, l'allemand, aujourd'hui, pour vous ?
Ah oui, non. Bon, l'allemand, dans les années 70, non ? Je ne voulais plus parler allemand. Quand je suis arrivée en France, je ne voulais plus parler allemand. Et même quand j'allais en Allemagne, là, pour voir mes amis, les éditeurs, etc., quand quelqu'un m'interrogeait dans le bus, etc., je faisais comme si je ne comprenais pas l'allemand. Ou un tout petit peu, mais avec un accent français. Et ça s'est passé comme ça pendant 10 ans, je crois, à peu près, non ? Donc ça m'a peut-être permis d'écrire mon premier livre, parce que j'étais complètement dans la langue française, en admiration, en assimilation, en jubilation, que le français pouvait me venir. Et là, Hélène Cixous a été d'une incroyable, magnifique influence, parce que Hélène, elle disait que toutes les femmes doivent écrire, non ? Il faut écrire pour se libérer. Et elle m'a autorisé d'écrire ma première poésie en français. Qui d'ailleurs, que j'ai reproduit dans mon premier livre, L'amour et l'absence. Et moi, j'étais sidérée. Ça venait, même sur le plan poétique, ça venait en français. Et ça c'était un enchantement total. Alors après, j'avais des amis allemands, enfin vivant à Paris également. Et entre nous, on a recommencé à parler allemand. Et j'ai redécouvert la beauté de cette langue. Et enfin, j'ai trouvé la vibration de cette langue dans mon cœur et dans mon âme. Parce que c'était toujours on a été élevés en musique et en poésie. Et alors, il n'y a rien de plus beau que les poètes allemands. Et c'était un crime de plus vouloir les lire. Alors, je crois que c'est avec Paul Celan que j'ai recommencé à vraiment plonger, à aimer, avec Ingeborg Bachmann, avec Rilke, que je ne voulais plus négliger non plus. Bon.
Merci, Marensel.
C'est fini, là ?
C'est fini pour le premier, mais on se retrouve demain pour le deuxième épisode.
Ah oui, d'accord.
Allez, à suivre l'épisode 2, Au temps des libertaires. Merci, à demain.
Ah voilà, c'est ça.
C'était À voix nue avec Marensel, réalisation Gaëlle Gilon, prise de son Florent Layani, chargée de programme À voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.